Bonsoir à tous. La Martinique, après la Guadeloupe, plus calme mais tout aussi mobilisée contre l'obligation vaccinale. Nous sommes dans le cortège à Fort-de-France. L'exécutif surveille la situation dans les Antilles de très près après les violences du week-end, réunion en ce moment même à Matignon. Mais en visioconférence pour Jean Castex, le Premier ministre lui-même, cas contact. Alors que le taux d'incidence dépasse 200 pour 100 000 habitants dans près d'un quart des départements désormais, le conseil scientifique sonne l'alerte et recommande une troisième dose pour tous. Dans l'actualité aussi, au Burkina Faso, une foule en colère bloque un convoi de l'armée française qu'elle accuse de ne pas assez lutter contre les djihadistes. François Fillon s'explique depuis 5 heures maintenant devant la cour d'appel. Un match à huis clos pour Lyon après le jet de bouteille hier sur Dimitri Payet. Ce n'est pas la première fois que le joueur est ainsi visé, il va porter plainte. Et puis faut-il craindre des coupures d'électricité cet hiver? Vigilance en janvier et février prochain, nous dit le gestionnaire du réseau électrique. Et au téléphone sonne Fabienne.
Et bien dans le sillage de ce que vous annoncez dans les titres, Hélène, qu'est-ce qu'on attend pour la troisième dose puisqu'on est dans la cinquième vague et qu'elle est fulgurante, nous dit-on. Ouvrez les vannes. Voilà une interrogation qui monte. En tout cas, faut-il y aller par tranche d'âge lentement? Faut-il ouvrir la piqûre à tous ceux qui ont été vaccinés il y a plus de 6 mois? Eh bien, les scientifiques ne sont pas tous unanimes. Dose indispensable pour tous ou dose de riche? À vos questions, les amis, 01 45 24 7000.
France Inter. Il ne faut plus attendre face à la reprise épidémique fulgurante, de l'aveu même du porte-parole du gouvernement. Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et le conseil scientifique, dont l'avis vient d'être rendu public, battent le rappel. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Les deux instances réclament des mesures et la première d'entre elles concerne l'élargissement du rappel vaccinal. Nécessaire, estime-t-elle, pour tous les adultes?
Oui, c'est écrit noir sur blanc. Pour faire face, il faut abaisser l'âge du rappel à 50 ans. Dans un premier temps, recommande de concert les deux conseils qui songent déjà en effet à l'élargissement de ce rappel, souvent la troisième dose, à toute la population adulte. C'est donc une campagne de masse qui s'annonce. Les vaccins sont là. L'important, c'est maintenant d'anticiper l'organisation. Selon le conseil scientifique, cette nouvelle salve d'injection de mi-décembre à mi-mars devra être répartie entre les centres de vaccination, les médecins généralistes et les pharmaciens. Le conseil scientifique rappelle que les non-vaccinés ont un risque 10 fois supérieur d'hospitalisation et de séjour en réanimation, et ils enjoignent à agir si l'on veut éviter d'être confronté à un mois de décembre difficile. Et le pass sanitaire, le conseil scientifique suggère de conditionner sa validité à cette dose de rappel, comme aujourd'hui, pour les 65 ans et plus, mais avec une temporalité adaptée. Aujourd'hui, rappelons-le, ce pass est désactivé si on dépasse de 5 semaines la date des 6 mois post-deuxième dose.
Au-delà du vaccin, Sophie, médecins et chercheurs, on le sent bien, sonnent l'alerte et réclament des mesures collectives.
Oui, le conseil scientifique insiste sur plusieurs points. D'abord, la primo-vaccination. 6 millions de personnes sont éligibles, elles ne sont toujours pas vaccinées, réfractaires ou pas. Le message de l'utilité vaccinale est inlassablement répété. Mais plus accessible, plus simple, il y a les gestes barrières, ceux qu'on respecte de moins en moins ou qu'on néglige. C'est notamment le fait d'aérer les pièces. Le conseil scientifique insiste là-dessus, comme sur l'utilité des détecteurs de CO2. Réglés à 800 particules par mètre cube, ils disent quand il faut ouvrir les fenêtres, que ce soit à l'école, à la maison, au bureau. Enfin, parmi les priorités, il y a le renforcement du dépistage à l'école et les tests aux moindres symptômes, sans oublier de proposer les nouveaux traitements antiviraux.
Alors sur la troisième dose, le maire de Nice, Christian Estrosi, a déjà pris les devants. Il promet d'ouvrir des créneaux pour une dose de rappel à tout le monde dès le 1er décembre. 24 départements ont désormais un taux d'incidence qui dépasse 200 pour 100 000 habitants, 358 en Ardèche et pas très loin derrière, la Haute-Corse, les Landes, les Bouches-du-Rhône. Ça ne surcharge pas encore l'hôpital, mais cela pourrait venir. D'où le conseil de défense sanitaire de mercredi et la crainte pour beaucoup de nouvelles mesures de restriction. Reportage France Bleu à Nantes de Nicolas Crozel.
Installée en terrasse avec sa fille, Mireille a ôté le masque quelques minutes seulement, même si elle en a...
Un petit peu marre, complètement même, mais bon, on faut le faire.
Ce qui l'agace le plus, c'est le relâchement qu'elle constate autour d'elle.
Ras-le-bol du comportement des personnes, oui. Il faut se vacciner, il faut que tout le monde se mette ça en tête, quoi. Si tout le monde prend sa précaution, ça s'arrête, sinon non.
À la table d'à côté, Raphaël confirme.
Oui, on en a marre, mais bon, après, c'est pour la santé, donc tout le temps, je le mets tout le temps. Dès que je rentre dans un endroit, je le mets. C'est vrai qu'en extérieur, c'est plus compliqué, c'est un peu plus difficile à admettre. Moi, je suis vaccinée. S'il faut une troisième dose, quand ça sera mon tour, je la ferai. Il n'y a pas de souci là-dessus. La solution, c'est le vaccin. Donc, on est obligé, on est obligé.
Sur la terrasse d'en face, on croise Mathias et Mathis. Ils profitent de leur café du matin avant le rush du midi. Ils sont tous les deux cuisiniers.
On a peur d'une refermeture et puis on n'aime pas rester chez nous. Donc, pas qu'on soit reconfiné.
C'était, entre guillemets, une expérience au début avec la vente à emporter. Mais au bout d'un mois, ouais, ça commence à devenir chiant, quoi.
Bah, dans nos métiers, souvent, on a cette envie de travailler, de toujours avancer. Et puis là, c'est vrai qu'on nous met un peu des bâtons dans les roues avec ce Covid. Donc, pourvu qu'on en sorte un jour.
En attendant, comme le dit Caroline, à la table voisine.
J'en profite et puis s'il faut que ça ferme, ça fermera. Hein, on s'adaptera.
Avant de résumer le sentiment général.
Je suis résignée. Voilà, tout simplement.
Et reportage France Bleu Loire-Océan signé Nicolas Crozel. La Loire-Atlantique où le taux d'incidence est à 187. Il est à 156 en Martinique et moins de 40% de la population a un schéma vaccinal complet. Là-bas, comme en Guadeloupe, la résistance au vaccin est forte et la colère se fait entendre. Appel à la grève aujourd'hui. Jérôme Val et Sandrine Malon, vous êtes sur place à Fort-de-France au milieu de quelques centaines de manifestants.
Oui, exactement. Entre 2 et 3 000 personnes, même la majorité vêtues de t-shirts rouges avec, vous l'entendez, des chants et sous un soleil de plomb, les slogans récurrents en créole sont brandis sur les pancartes scandées au micro contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale pour certaines professions. Une entrave à la liberté selon cette manifestante.
Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Et puis, la lutte pour savoir toute cette transparence sur ce vaccin, c'est tout ce que nous demandons, du temps.
Le cortège s'est ensuite longuement arrêté devant le village d'accueil de la Transat Jacques Vabre. Cette course à la voile symbole aux yeux de beaucoup ici en Martinique de l'injustice des restrictions sanitaires. Le tour des yoles, par exemple, ces bateaux traditionnels, a lui été reporté, mais pas la Transat. Cette course du café qui renvoie aussi la Martinique à son passé colonial, à l'esclavage, dénoncé tout à l'heure au micro un syndicaliste. Des discours, vous l'entendez, véhément, mais pas plus pour l'instant. On n'est pas en Guadeloupe. On sent malgré tout, en entendant ce pompier de Fort-de-France, que la situation peut vite se crisper.
On ne veut pas que ça dérape en Martinique, parce que c'est pas en brûlant que nous allons attraper des solutions. Le problème, c'est que si les autorités, le gouvernement ne nous écoute pas, c'est la rue qui va prendre le pouvoir. Ça va partir en saucisse en Martinique aussi.
Voilà, depuis ce matin, quelques points stratégiques de Fort-de-France et du Lamantin, les zones commerciales ou le port par exemple, sont bloqués pour un mouvement qui pourrait durer.
Jérôme Val, qui suit aussi l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, prévue ce soir, manifestation plutôt calme, on l'a entendu grâce à vous Jérôme, loin des images du week-end en Guadeloupe, des incendies, des pillages, les forces de l'ordre visées par des tirs à balles réelles, la mobilisation contre l'obligation vaccinale a dégénéré en crise violente, explosive, reconnaît Emmanuel Macron. Il en est question en ce moment même à Matignon. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Hélène.
Où le Premier ministre s'entretient avec des élus de Lille en visio, hein, Jean Castex et lui-même qu'à contact.
Oui, comme une sérieuse piqûre de rappel avant la présidentielle, le Covid se réinvite dans la campagne. Test PCR pour le Premier ministre et test sécuritaire pour l'exécutif qui se sait regardé et attendu au tournant. Depuis près d'une heure, les trois ministres, Santé, Intérieur, Outre-mer, dialoguent à Matignon avec les élus du département. Jean Castex pas loin, rue de Varennes lui aussi, mais isolé dans un salon. Et c'est donc sur son écran qu'il écoute le maire de Lamantin, Jocelyn Sapotille, le sénateur et ancien ministre PS Victorin Lurel ou encore la députée Justine Bénin et par visio, depuis la Guadeloupe, le préfet, le président de région et quelques autres élus. Du dialogue, mais c'est surtout le mot fermeté qui domine, rétablir l'ordre public face à la toute petite minorité dont parlait ce matin Emmanuel Macron, surtout depuis qu'on a appris que des armes de guerre, des pistolets mitrailleurs et des munitions ont été volées ce week-end dans les locaux des gardes-côtes de Pointe-à-Pitre. Est-on en train d'assister à la résurgence du grand mouvement social de 2009 contre la vie chère ? L'exécutif tue dans l'œuf la comparaison et liste les investissements records depuis 2017 du nouveau CHU de Pointe-à-Pitre au dédommagement des victimes du chlordécone. Attention ce soir, une crise peut en cacher une autre. Pas d'élus martiniquais à Matignon, mais c'est bien vers ce territoire que le gouvernement a les yeux tournés pour voir si le secteur privé embraye ou non sur l'appel à la grève générale.
Yael Gauze, chef du service politique, merci à vous. La nuit a été plus calme en Guadeloupe que les précédentes. Encore beaucoup de barrages, mais peu de pillages. 11 personnes interpellées. Et ailleurs en Europe, on entend monter inquiétude et colère. Inquiétude en Allemagne, où Angela Merkel juge les restrictions actuelles insuffisantes après la formule choc de son ministre de la Santé en début d'après-midi. Les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts d'ici à la fin de l'hiver. La Slovaquie, à son tour, décide de confiner les non-vaccinés. Et puis la colère s'est exprimée ce week-end en Autriche, où toute la population est confinée depuis aujourd'hui. Aux Pays-Bas, 145 arrestations en 3 jours. Et en Belgique, 35 000 personnes hier à Bruxelles, des violences violence, là aussi, contre l'extension du pass sanitaire. Et depuis ce matin, le télétravail obligatoire 4 jours par semaine. C'est le reportage d'Angélique Bouin.
Il était fortement recommandé jusqu'alors, mais pas assez respecté selon les autorités, qui veulent à la fois éviter les regroupements au bureau et alléger la pression sur les transports en commun. Rester chez soi 4 jours par semaine, 3 jours à partir de mi-décembre, si la situation le permet, est donc obligatoire, le Premier ministre belge Alexander De Croo.
Comme l'année passée, ça s'applique uniquement aux endroits où le télétravail est possible. C'est clair que c'est un effort qu'on doit faire ensemble.
Pendant le week-end, dans nombre d'entreprises, on est venu récupérer ordinateurs, clavier et chaises de bureau. Chez Page Group, entreprise de recrutement qui emploie 180 personnes en Belgique, le travail en présentiel avait repris depuis septembre. On s'est donc organisé, explique Thibaut Hadès, son directeur général.
La bonne chose, c'est qu'on a déjà une certaine expérience, c'est pas la première fois, donc on a été capable de réagir très vite, mais effectivement ça vient casser une dynamique de reconnexion des employés entre eux, et ça évidemment, ça crée un certain nombre de problématiques dans le monde de l'entreprise.
À la Commission européenne, où l'on n'imposait qu'un jour de travail en présentiel, peu de changements. Le Parlement européen a lui réintroduit pour les eurodéputés le vote à distance. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
En France, selon l'association des DRH, un peu plus d'un quart des salariés fait un ou plusieurs jours de télétravail dans la semaine. La ministre du Travail, sans revoir le protocole sanitaire à ce stade, demande aux entreprises de remobiliser sur les gestes barrières.
L'actualité à l'étranger, Hélène, nous emmène ce soir au Burkina Faso.
À quelques dizaines de kilomètres de la capitale, Ouagadougou, où un convoi militaire français est toujours bloqué. L'armée est prise pour cible par des habitants qui lui reprochent de ne pas assez faire pour lutter contre les djihadistes. Omar Ouaman est notre correspondant dans la région.
C'est un convoi logistique de l'armée française comme il en circule fréquemment sur cet axe routier stratégique. Parti la semaine dernière de Côte d'Ivoire, il doit traverser le Burkina Faso. Mais une foule en colère se rassemble régulièrement sur son passage, empêchant la progression, comme le montre cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.
On dit de rentrer chez vous. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. C'est mieux de repartir. Hein.
Durant toute la journée de samedi, la situation a été particulièrement tendue. Jets de pierre contre gaz lacrymogène et tirs de sommation pour disperser la foule. Après de longues négociations, le convoi a pu reprendre sa route avant d'être à nouveau bloqué à 30 km au nord de Ouagadougou, la capitale. Pascal Yanni, porte-parole de l'état-major des armées.
Le convoi peut rester stationné dans cette zone pendant plusieurs jours, nous ne sommes pas pressés. L'objectif, c'est de reprendre la progression quand les conditions seront réunies et pour permettre aux autorités burkinabées de dialoguer dans la sérénité avec les différents groupes de manifestants.
Une stratégie d'apaisement face à des jeunes excédés par l'incapacité des autorités burkinabées et de leurs alliés français à mettre fin aux violences qui ensanglantent le pays. La dernière attaque, le 14 novembre dernier, a bouleversé la population. 49 gendarmes ainsi que 4 civils ont été assassinés près de la frontière avec le Mali. Dakar, Omar Ouaman, France Inter.
Et puis une enquête va être ouverte en France après les révélations du média d'investigation Disclose. Il affirme que l'Égypte détourne des renseignements militaires fournis par la France, non pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour cibler, bombarder des civils suspectés d'être trafiquants à la frontière franco-libyenne. Scène de pré-campagne présidentielle dans la Somme aujourd'hui. Emmanuel Macron est sur les terres du LR Xavier Bertrand, président de région, et du député La France Insoumise, François Ruffin, qui a voulu dicter l'agenda du président et qui a un peu réussi. C'est le reportage de Maxence Lambrec.
Vous savez, il y a une occasion qui passe à Amiens, on la prend et puis on fait ce qu'on a à faire dans cette occasion-là. Au foot, c'est comme ça. Hein.
François Ruffin, pas peu fier d'avoir permis à des sages-femmes en grève d'être reçues par Emmanuel Macron.
Ravi d'avoir rencontré un président aussi humain, oui.
Frédéric Lavallée, sage-femme, adhérente CGT.
On n'aurait jamais obtenu ce rendez-vous sans Monsieur Ruffin. Vu le peu de reconnaissance que la profession a, c'est déjà énorme ce qui s'est passé aujourd'hui, d'avoir une délégation de sages-femmes qui a été reçue par le président.
Moi, je dis attention parce que s'il y a illusion, il peut y avoir désillusion.
Deuxième dossier mis en avant, les assistants de vie scolaire au moment de leur poignée de main.
Je vous aime mieux votre programme oui. De 2017.
Ça, c'est gentil de le rappeler.
Bah oui. Il y a cette ligne.
Oui.
Ces AVS auront un emploi stable et un salaire décent. Ça fait plus de 4 ans que vous êtes président de la République. Qui peut vivre aujourd'hui avec 600, 700, 800 euros par mois?
La vraie difficulté à laquelle on est en train de répondre, mais on n'y est pas du tout, on n'en est pas arrivé, donc je suis pas en train de dire que le sujet est réglé, c'est qu'elles sont au SMIC horaire. Mais elles n'ont pas suffisamment d'heures.
Troisième dossier, Whirlpool. Emmanuel Macron a pris un café ce matin avec d'anciens salariés. C'est grâce à moi, dit l'insoumis, mais la conclusion n'est pas la bonne.
J'ai vu sa réaction, c'est de dire on s'est fait avoir collectivement. Je suis désolé, il s'est fait avoir, l'État s'est fait avoir.
Notre territoire, on le sait,
a beaucoup souffert par le passé.
Pouvoir parler de son territoire, se placer à portée d'engueulade.
Enfin, nous sommes une terre de résistance qui s'est toujours battue.
Et il a encore apparemment envie de se battre. Amiens, Maxence Lambrec, France Inter.
Autre épisode de campagne, c'était en 2017, ça l'avait même chamboulé, ses soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. On suit le procès en appel en ce moment du couple et c'était au tour de François Fillon d'être entendu aujourd'hui, condamné à 2 ans de prison ferme en première instance. Laurélie Carrive, vous êtes au Palais de Justice, l'audition vient de se terminer, une audition au cours de laquelle l'ancien Premier ministre a tenté de démontrer que les emplois occupés par son épouse n'avaient rien de fictif.
Oui, une poignée de feuilles et un carnet brun posé devant lui, François Fillon déroule sa défense. La voix est posée, moins cassante qu'en première instance. La clé, pour un député, explique-t-il, c'est l'enracinement, l'implantation sur le terrain. Qui mieux que son épouse pouvait incarner sa présence dans la Sarthe, nouer un lien personnel avec les habitants, ici lors d'un repas des anciens, là lors d'un arbre de Noël, d'où ce qu'il décrit comme un choix, ne pas présenter Pénélope Fillon comme son assistante parlementaire. Le problème, aux yeux de la justice, c'est l'absence de traces laissées par le travail de son épouse. On est sur une collaboration à forte connotation immatérielle, note le président. François Fillon est prié de fouiller sa mémoire à la recherche d'exemples précis. Outre le courrier, Pénélope Fillon lui fait remonter des informations du terrain, lui permet par exemple de désamorcer une bronca autour de l'aménagement d'un chemin de halage. Elle relie aussi les discours importants. Pourquoi les journalistes locaux n'étaient-ils pas au courant de son rôle ? Interroge le président. François Fillon y voit le signe d'arrière-pensée négative à son endroit. Pendant la présidentielle, j'ai eu des positions tranchées sur la dépense publique, sur le mariage. Il est possible qu'elles aient heurté certaines personnes.
Laurélie Carrive avec Fabien Gosset en direct du Palais de Justice de Paris. Et après cet énième débordement dans les tribunes et ce match de foot interrompu hier soir, c'est la survie du football français qui est en jeu pour Roxana Maracineanu. La ministre des Sports réunit demain les instances du football avec les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour réfléchir à ce qu'il faut faire après ces incidents. Dimitri Payet, touché par le jet d'une bouteille d'eau, va porter plainte. L'OL jouera son prochain match de Ligue 1 à huis clos. Le froid arrive cette semaine et on risque de bien le sentir car il va s'accompagner d'un bon petit vent. Calendrier parfait finalement pour la conférence annuelle de RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Le réseau va-t-il tenir cet hiver ? Y a-t-il des risques de coupure ? Eh bien, le risque de tension semble assez faible d'ici Noël, mais RTE est plus prudent, plus vigilant pour le début de l'année, Delphine Simon.
Oui, l'hiver passé, vu les marges très réduites, RTE avait dû lancer une alerte EcoWatt. Souvenez-vous, le 8 janvier, l'opérateur vous demandait de réduire votre consommation d'électricité. Pas trop de risque que ça se produise d'ici fin décembre, vu les prévisions météo à 45 jours, mais l'opérateur se montre moins confiant en janvier-février. Parmi les incertitudes, la disponibilité du parc nucléaire. Cet hiver, entre 5 et 15 réacteurs ne produiront pas selon les semaines. C'est à peu près le même niveau que l'an passé, plus faible que la moyenne d'avant le Covid. L'impact de la crise sanitaire n'a pas disparu. Autre paramètre, l'intensité du froid et le vent, explique Jean-Paul Roubin, directeur d'exploitation chez RTE.
Aujourd'hui, on a tous le sentiment qu'il fait froid, mais il y a beaucoup de vent puisqu'on est quasiment à 10 gigawatts de production éolienne. Est-ce que le parc de production nucléaire aura une disponibilité conforme à ce qu'on en voit aujourd'hui ? Est-ce que celle-ci sera meilleure ? Est-ce que celle-ci sera dégradée ? On ne peut pas exclure de rentrer ponctuellement dans des situations de tension sur l'équilibre froid-vent.
Pas de risque de blackout, dit RTE, car on peut compenser en cas de forte tension. Certaines industries arrêtent de consommer. Au pire, on peut décider de baisser la tension de 5%. Jusqu'ici, ce n'est jamais arrivé.
Delphine Simon, la promesse de la SNCF, les prix n'augmenteront pas sur les lignes, sur les grandes lignes, l'année prochaine. Et puis le conseil cinéma du soir, c'est une comédie musicale ébouriffante, haut et fort, du réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch, présenté en sélection officielle à Cannes. C'est Alexis Demeyer qui nous raconte l'histoire.
Un rappeur à la retraite débarque dans le quartier pauvre de Sidi Moumen pour transmettre sa passion à des ados en colère. Mais en animant cet atelier d'écriture entre les murs du centre culturel Les Étoiles, Anas Bazbouzi, qui interprète son propre rôle, va tour à tour être éducateur, prof de philo et même psy.
C'est un cours où on va venir apprendre à connaître les vraies valeurs de cette culture hip-hop et le rap est venu pour être cet instrument qui va leur permettre de parler de choses qui les blessent, qui les révoltent ouvertement devant tout le monde et que les gens ils vont accepter un peu cette forme de vérité.
Je suis acheté une machine d'héros à le concert.
Haut et fort est une déclaration d'amour au hip-hop, ce mouvement né à New York mais qui résonne jusqu'à Casablanca. En multipliant les scènes de chant et de danse, Nabil Ayouch a d'ailleurs conçu son film comme une comédie musicale.
J'assume complètement ce genre qui permet en plus, au-delà des grandes problématiques sociales, politiques, religieuses qui hantent cette jeunesse, de parler de l'intime. Que ce soit à travers le rap, le slam, les parties de hip-hop chorégraphiées, on va raconter une histoire personnelle.
Ce septième film de Nabil Ayouch regarde la jeunesse dans les yeux. Les parents, les adultes sont relégués à des rôles de figuration, tandis que les jeunes comédiens amateurs livrent des prestations impressionnantes.
La jeunesse marocaine qui donne de la voix, c'est dans Haut et fort de Nabil Ayouch à voir au cinéma en ce moment.
Okay, merci beaucoup Hélène Philly, merci. On se retrouve demain.